La santé, c'est l'affaire de tous.
Merci d'être avec nous pour parler santé sur Phare FM Montauban. Soyez les bienvenus. Habituellement, il endort les gens, mais sur Phare FM, avec son émission, il nous tient éveillés. C'est notre docteur Edmundo Pereira. Bonjour Edmundo, comment ça va aujourd'hui ?
Très bien. Et comme tu dis, aujourd'hui, on va garder les yeux bien ouverts parce qu'on va parler d'un sujet très intéressant, très important.
Alors, sans plus tarder, nous accueillons ton invité d'aujourd'hui, qui est le docteur Paul Tesser-Gour. Bonjour, docteur.
Bonjour.
Vous êtes ophtalmologue à la clinique du Pont des Chaumes, et selon le Vidal, la cataracte est très fréquente. Elle est la première cause de chirurgie en France. Sans traitement, la cataracte peut provoquer une perte de la vision. Elle représente la troisième cause de cécité en France, après la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge et le glaucome. Nous allons donc parler de la chirurgie de la cataracte avec vous, docteur, et toi, Edmundo. Messieurs, l'antenne est à vous.
Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup, Paul, d'avoir accepté, parce que je sais que tu as des temps, d'emplois de temps très chargés. Avant de commencer à attaquer les questions, parce qu'il y a plusieurs à poser aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Oui, bien sûr. Bon, déjà, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Donc, je suis le docteur Paul Tesser-Gour. Je suis ophtalmologiste, installé depuis maintenant près de 12 ans au sein de la clinique du Pont de Chaumes avec deux de mes associés. Je pratique essentiellement la spécialité dans la prise en charge des troubles de la réfraction et donc dans la chirurgie de la cataracte.
Parfait. Et d'abord, avant d'attaquer le sujet de la chirurgie de la cataracte, est-ce que tu peux, s'il te plaît, expliquer comment est composé l'œil ?
Ah oui, c'est une très bonne question. Donc, l'œil, c'est un petit organe sensoriel. Alors, petit parce qu'il mesure entre 23 et 25 millimètres de long. Il ne pèse que 7 à 8 grammes. Et c'est un organe sensoriel qui est très complexe, dont le but est de convertir une information lumineuse en une information électrique qui sera envoyée et encodée par le cerveau pour nous donner une information visuelle. Très souvent, on aime bien, quand on étudie l'anatomie du globe oculaire, on aime bien le comparer à un appareil photo. Alors là, je parle des anciens appareils photo, où on peut distinguer deux parties, la partie antérieure qui pourrait correspondre à l'objectif. Donc, il y a la cornée, le diaphragme irien que l'on voit souvent à l'œil nu, qui est la pupille, et une structure importante qui est une lentille que l'on appelle le cristallin. Et la partie postérieure que l'on peut correspondre, qui peut correspondre à la pellicule de l'appareil photo, qui est la rétine. Et l'ensemble de cet organe est relié au cerveau par ce qu'on appelle le nerf optique. Donc, la rétine est une tapisserie qui est composée de cellules qu'on appelle les cellules photoréceptrices, qui vont permettre de transformer l'information lumineuse en une information électrique. Donc on le voit, c'est un petit organe dans lequel il y a plusieurs structures anatomiques, histologiques, qui vont intervenir dans le processus visuel. Donc si une de ces structures est atteinte par une pathologie, est déficiente, ben cela entraîne une baisse d'acuité visuelle.
Parfait. Et dans ces cas, on va parler effectivement aujourd'hui beaucoup plus du cristallin. Est-ce que tu pourras dire quel est le rôle du cristallin, et comment survient la cataracte ?
Alors le cristallin, comme je l'ai défini un petit peu dans l'introduction, ça fait partie de ce qu'on appelle la partie antérieure de l'œil. C'est une lentille transparente qui est située juste derrière l'iris. Si on reprend l'analogie avec l'appareil photo, cette lentille permet de faire un peu l'autofocus, c'est-à-dire qu'elle va assurer une convergence des rayons lumineux à l'intérieur de l'œil pour les concentrer au niveau de la rétine. Donc ça permet ce qu'on appelle un phénomène de mise au point, ce qu'on appelle dans le jargon l'accommodation. Donc cette lentille, elle est transparente. C'est un organe qui permettra justement de pouvoir laisser passer l'information lumineuse. Dès que cette transparence est perdue, dès que la lentille devient opaque, forcément, il y a une altération au niveau de la vision. C'est ce qu'on appelle la cataracte.
La cataracte est une maladie très fréquente. Et quelles sont les causes ?
La cataracte, c'est une maladie effectivement fréquente. Comme je l'ai dit, cela entraîne une baisse d'acuité visuelle qui va obligatoirement être responsable d'une baisse de la qualité de vie des patients. Donc, c'est pour ça qu'il faut effectivement la prendre en charge. Alors, les causes, il y en a plusieurs. Pour être assez simple, la principale cause, c'est bien entendu l'âge. Il faut savoir que ça concerne près de 20% des personnes de plus de 65 ans. Une personne sur cinq est touchée à partir de 65 ans et à peu près deux personnes sur trois à partir de 85 ans. Donc, principale cause, ça reste effectivement l'âge. Mais pas seulement. La cataracte, on peut la retrouver chez les enfants. On parle de cataracte congénitale. Alors, c'est assez rare, hein, 0,03%. La cataracte peut être aussi post-traumatique. Donc, après un traumatisme oculaire, souvent, il peut y avoir des troubles des milieux, dont la perte de transparence du cristallin. Ça peut être secondaire à des maladies inflammatoires oculaires. Ça peut se voir secondairement en des pathologies auto-immunes telles que le diabète. Et ça peut être aussi d'origine iatrogène, certains médicaments, notamment une forte corticothérapie au long cours. Ça peut entraîner et aggraver la cataracte. Et enfin, on retient le rôle du tabac, qui peut aussi aggraver et déclencher des cataractes, et les expositions aux UV non contrôlées par des ports de lunettes de protection. Voilà.
Effectivement, tu as bien parlé de la diminution de l'acuité visuelle, mais est-ce qu'il y a des signes caractéristiques de la cataracte et comment fait-on le diagnostic?
Alors, le diagnostic, il est assez aisé, entre guillemets. C'est avant tout une baisse d'acuité visuelle qui peut être ressentie par le patient. Alors, en fonction du stade de la cataracte, parce qu'il y a différents stades, la baisse d'acuité visuelle peut être plus ou moins importante. Donc, ça peut se traduire par une vision qui devient trouble, comme si on regarde au travers d'un nuage ou au travers d'une vitre toute polarisée ou un pare-brise de voiture qui serait encrassé, pour prendre des exemples assez faciles. On a l'impression d'avoir une sensibilité accrue à la lumière, donc une photosensibilité qui est un peu plus importante, notamment le soir avec les phares des voitures. Une altération au niveau de la vision des couleurs qui deviennent plus ternes. Je prends souvent l'exemple du blanc qui va devenir beige, qui va tirer vers le jaune, c'est-à-dire que les couleurs sont un peu plus, entre guillemets, lessivées, et une diminution donc des contrastes et une gêne fonctionnelle. Et après, malheureusement, dans des cas très, très, très évolués, sur des cataractes qui progressent très rapidement, ce qui peut arriver, ben, on peut avoir des patients qui ont une perte totale de la vision. On parle dans ces cas-là de cécité, fort heureusement réversible. Alors, les patients consultent donc devant une baisse d'acuité visuelle ou devant un trouble visuel. Et nous, à la consultation, on va faire le diagnostic d'abord par une mesure de l'acuité visuelle qui va véritablement authentifier et chiffrer, si j'ose dire, la baisse de vue. L'examen que l'on fait donc en ophtalmologie qui est un examen à lampe à fente qui va nous permettre de voir justement la partie antérieure du globe oculaire et de constater l'opacification du cristallin. Et après, le diagnostic, bien entendu, il repose aussi sur l'élimination des autres causes de baisse d'acuité visuelle. On entend souvent parler de la dégénérescence maculaire liée à l'âge ou du glaucome, pour ne citer que les autres causes de baisse d'acuité visuelle les plus fréquemment rencontrées en France, mais dans les autres pays aussi du monde. Donc, il faut d'abord éliminer les autres causes. Et puis, une fois qu'on a éliminé ces autres pathologies et avec un diagnostic, on peut facilement et rapidement constater une baisse de vue liée à une opacification du cristallin, donc par une cataracte.
On parle souvent de la chirurgie de la cataracte. Est-ce que l'opération est le seul traitement pour quelqu'un qui a un problème de cataracte?
Alors oui, c'est le seul et l'unique traitement. Alors, quand on fait un diagnostic de cataracte, il faut savoir qu'on ne va pas forcément de suite opérer les patients. On peut avoir une cataracte avec un faible retentissement au niveau de l'acuité visuelle. Ça reste un geste chirurgical, donc il faut véritablement le poser avec des valeurs et l'authentification et l'objectivation d'une baisse d'une baisse de l'acuité visuelle. Donc, quand on fait un diagnostic de cataracte, il ne faut pas que les patients d'emblée soient inquiets. On peut attendre que la cataracte mûrisse entre guillemets et qu'elle ait véritablement un impact fonctionnel sur les patients, donc une baisse de la qualité de vie pour pouvoir envisager une prise en charge. En tout cas, quand le diagnostic est posé, s'il n'y a pas de prise en charge chirurgicale derrière, surtout, il ne faut rien faire. Il faut attendre qu'elle mûrisse. Il existait, à une époque, il existe toujours des collyres qui d'ailleurs ne sont pas remboursés, qui coûtent une fortune et qui ne servent strictement à rien. Donc, si l'acuité visuelle est faiblement impactée, si la qualité de vie des patients est faiblement impactée, on attend. Dans l'autre cas, là par contre, oui, le traitement, le seul et l'unique traitement, c'est la prise en charge chirurgicale.
Dans la prise chirurgicale, est-ce qu'il y a toujours la mise en place d'un implant? Et quels sont les différents types d'implants que tu peux être amené à poser pour un patient qui bénéficie d'une chirurgie de la cataracte?
Actuellement, oui, tout le monde est éligible à la mise en place d'un implant. Comme on va, d'un point de vue chirurgical, enlever une lentille anatomique naturelle de l'œil, qui est le cristallin, forcément, si on l'enlève, il faut qu'on la remplace par quelque chose. Alors, il y a de très nombreuses années, pour des patients notamment qui étaient myopes forts, on pouvait ne pas mettre d'implant. Mais maintenant, on met systématiquement, pour tout le monde, un implant. Alors, l'implant, c'est quoi? C'est un petit disque, c'est une petite lentille artificielle, parfaitement inerte, que l'on va donc placer à la place du cristallin que l'on aura donc au préalable enlevé. Donc cette lentille, elle est inerte, j'insiste, car très souvent les patients ont peur de risque de rejet. Il n'y a pas de rejet avec ces lentilles. Donc on peut les garder à vie, on peut prendre l'avion, on peut passer les portiques de sécurité sans aucun problème. Alors, en fonction des patients, on peut effectivement être amené à utiliser différents types d'implants. Pour être très simple, il existe deux catégories. Les implants dits monofocaux, c'est-à-dire des implants qui vont corriger essentiellement la vision de loin. Et il existe maintenant sur le marché des implants dits premium qui vont pouvoir corriger d'autres troubles visuels. Et le choix de ces implants va surtout être déterminé grâce à l'examen préopératoire, le but étant de répondre aux attentes et aux besoins des patients.
Quels sont les risques liés à une chirurgie de la cataracte?
Alors, comme j'ai souvent tendance à dire à mes patients, le risque zéro n'existe pas en chirurgie, quel que soit l'acte chirurgical. Ça reste un acte chirurgical qui est très fréquent, c'est un des actes les plus réalisés en France, il y a près de 900 000 cas par an. Même si c'est une prise en charge chirurgicale qui est parfaitement codifiée, il peut toujours y avoir des risques. Donc, on se doit bien entendu d'en informer nos patients en préopératoire. Et même si l'acte est parfaitement codifié, il peut toujours y avoir effectivement des risques. Alors, les risques, pour être assez simple, ils peuvent survenir malheureusement pendant l'acte chirurgical. Je vous l'ai dit, le globe oculaire est un organe, pardon, qui est assez petit, qui reste fragile, ça reste de la microchirurgie. Donc, parfois, il peut y avoir malheureusement des complications préopératoires. Et après, il peut y avoir des complications pendant toute la période post-opératoire. Bon, ce sont des risques qui sont faibles, puisqu'on les estime entre 1 et 1,5%, hein, donc ce qui est assez faible. Alors, dans les complications, celle qui est la plus redoutée, c'est la complication infectieuse. C'est ce qu'on appelle l'endophtalmie, qui est malheureusement peut avoir des conséquences assez dramatiques. Fort heureusement, c'est rare, ça touche que 0,1 à 0,3% des patients opérés. On a réussi à très largement diminuer l'incidence de cette infection grâce à une antibioprophylaxie préopératoire, c'est-à-dire que pendant l'intervention, on injecte directement dans l'œil un antibiotique. Et après, bien entendu, il y a des soins à faire post-opératoire avec des soins par collyre, des anti-inflammatoires et des antibiotiques pour justement éviter ce risque infectieux. Donc, c'est le plus redouté parce qu'il peut y avoir des causes malheureusement, des conséquences, pardon, dramatiques. Mais heureusement, elle est très largement atténuée grâce à tous les protocoles que l'on met en place maintenant en préopératoire et en post-opératoire. Alors, il peut y avoir des complications aussi de déchirure de rétine. Donc, c'est assez rare, fort heureusement, qui peuvent malheureusement entraîner des décollements de rétine. C'est rare, mais ça existe. Il peut y avoir, donc, comme je vous ai dit, des risques techniques liés à la chirurgie et au temps opératoire, notamment des ruptures, ce qu'on appelle la rupture capsulaire, qui nécessite parfois de mettre dans un deuxième temps l'implant par une deuxième prise en charge chirurgicale. Il peut y avoir des problèmes de cornée, notamment ce qu'on appelle les décompensations cornéennes. Donc là encore une fois, l'examen et le bilan préopératoire fait par l'ophtalmologiste est extrêmement important pour rechercher éventuellement des signes de pathologie cornéenne qui pourraient être décompensés par le geste chirurgical en lui-même. Il peut y avoir des problèmes liés à l'implant, notamment des mauvais résultats post-opératoires. Ça peut provenir soit par de mauvaises mesures qui sont faites en préopératoire ou parfois malheureusement un mauvais choix des implants. Donc, il n'y a pas de rejet, mais parfois, il peut y avoir des complications parce que les patients sont gênés en post-opératoire, car l'implant que l'on a mis n'est pas forcément adapté. Et enfin, Edmundo, tu vas pas me contredire, il peut aussi y avoir des risques liés à l'anesthésie, même si là aussi, et encore une fois, c'est très, très, très faible.
On est toujours là pour assurer la sécurité des patients, effectivement.
Bien sûr.
Et une question, parce que c'est vrai que l'œil, c'est quelque chose de très sensible. Est-ce que la chirurgie de la cataracte est douloureuse?
Non, elle n'est pas douloureuse. Dans plus de 90% des cas, cette chirurgie est réalisée en ambulatoire. Il existe différents types de possibilités de prise en charge chirurgicale, d'indication d'anesthésie. La technique opératoire reste essentiellement la même, mais non, ce n'est pas douloureux. Enfin, en tout cas, par l'aide justement des anesthésistes, le patient est suffisamment sédaté et on utilise des collyres pour anesthésier l'œil. Donc non, c'est pas douloureux.
Est-ce qu'un patient qui bénéficie d'une chirurgie de la cataracte, combien de temps ou est-ce que tout de suite, il peut porter des charges?
Alors, c'est une question qu'on nous pose effectivement très souvent. Comme tout geste chirurgical, il faut respecter un certain repos physique, pas forcément visuel, mais un certain repos physique. Et effectivement, on a tendance à demander aux patients d'éviter de transporter des charges lourdes pour éviter ce qu'on appelle faire des efforts de poussée à glotte fermée. Mais ça, c'est dans les premiers jours qui suivent l'intervention. C'est très, 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 très court comme consigne de sécurité post-opératoire.
Concernant la conduite, combien de temps un patient peut conduire après une opération de la cataracte?
Alors, ça dépend bien entendu déjà du patient, ça dépend du résultat post-opératoire obtenu, ça dépend de l'acuité visuelle en pré-opératoire, mais très classiquement, les patients peuvent reprendre la conduite à 48 heures.
Est-ce qu'il y a un temps, supposons que le patient a les deux yeux à être opéré, est-ce qu'il y a un temps d'attente entre les deux opérations? Ou alors, est-ce que un patient, je pense qu'on sait la réponse, mais je vais te poser quand même, est-ce qu'un patient peut opérer les deux yeux en même temps?
Alors, il faut savoir effectivement que très souvent, la cataracte, elle est bilatérale. Il peut y avoir des formes où la cataracte est plus prononcée sur un œil que l'autre, donc on a tendance à commencer par un et attendre pour opérer le deuxième. Mais en moyenne, si on doit opérer les deux yeux, c'est une quinzaine de jours entre chaque œil. Alors, l'opération des deux yeux en même temps, non, on ne le fait pas. Ça peut se faire dans des cas très particuliers, ça m'est déjà arrivé de le faire, mais c'est excessivement rare et en pratique, on ne le fait pas, tout simplement pour éviter des complications pour le patient si on opère d'emblée les deux yeux. Voilà. Donc, par sécurité, on opère un œil puis l'autre. En moyenne, c'est une quinzaine de jours, mais parfois on opère un œil, le patient est très bien et souhaite attendre le deuxième, on peut attendre un mois, deux mois, six mois. Mais en moyenne, si on doit opérer les deux yeux, un intervalle de 15 jours.
Concernant les changements de pression, par exemple, un patient qui fait la plongée sous-marine ou un patient qui fait l'escalade dans les monts très hauts, est-ce qu'il y a une limitation de temps après une chirurgie de la cataracte?
Alors, il faut attendre que l'œil cicatrise en surface. Donc ça, c'est généralement obtenu assez rapidement, en l'espace de 8-10 jours. Comme il n'y a pas de gaz, comme il n'y a pas d'injection particulière, il n'y a pas de restriction. Le patient peut reprendre rapidement un avion. Alors pour la plongée sous-marine, il faut vraiment attendre une cicatrisation totale. Bon, je dirais un mois. Mais après, c'est très, très variable selon les patients et selon les opérateurs aussi.
Par rapport à l'évolution de la chirurgie de la cataracte, est-ce que tu vois des évolutions à venir, des changements qui vont se faire à venir dans l'amélioration de la prise en charge des patients qui ont un problème de cataracte?
Alors oui, c'est-à-dire il y a deux. Ben déjà la technique en elle-même, bon, elle a beaucoup évolué. Là, elle évolue un petit peu moins. Alors on a maintenant la possibilité d'utiliser des instruments avec qui nécessitent des incisions de plus en plus petites. Donc vraiment. On optimise la microchirurgie. On a des optimisations surtout au niveau des implants. Donc, on a une très, très, très grosse possibilité et très grosse évolution au niveau de la qualité réfractive des patients. Donc, la possibilité d'utiliser des implants qui permettront d'obtenir des résultats encore meilleurs en post-opératoire, même s'ils sont déjà excellents. Sur la prise en charge des patients avec une chirurgie qui est plus rapide, avec un retour à domicile encore plus rapide pour les patients. Donc, ce sont des choses qui, effectivement, progressent régulièrement.
C'est vrai qu'on voit souvent les patients se plaindre de, effectivement, le délai pour avoir une consultation. Est-ce que, actuellement, dans le Tarn-et-Garonne, par rapport aux autres régions, tu penses qu'il y a des améliorations à faire ou est-ce qu'on est très bien loti avec la quantité d'ophtalmo, la prise en charge des patients pour la cataracte ou tu penses qu'on peut encore gagner un peu plus?
Alors, on est dans le Tarn-et-Garonne, on est quand même très bien loti parce qu'on est très nombreux. C'est une des régions, une des départements, pardon, dans lequel il y a beaucoup d'ophtalmologistes. Mais c'est bien parce que ça permet aux patients de départements et de régions voisines de pouvoir avoir une prise en charge assez rapide, même si on aimerait effectivement et les patients souhaiteraient que ce soit plus rapide. Ben, l'optimisation, elle viendra sur effectivement une réponse rapide de l'attente des patients. Mais bon, malheureusement, on peut pas toujours faire plus vite. Quand on opère des patients, on peut pas dépasser un certain nombre de d'actes chirurgicaux parce que ça met à défaut le bloc opératoire, etc. Mais si on veut prendre plus en charge plus possible de patients en charge, ben ça nous impose d'avoir un rythme de consultation plus important et ben d'avoir plus de vacations ou de liberté au bloc opératoire. Oui. Mais c'est déjà, dans le Tarn-et-Garonne, on est quand même très très bien. Les patients sont quand même bien pris en charge avec une rapidité de prise en charge.
Parfait. C'est vrai que tu as déjà touché, mais pour bien sensibiliser nos auditrices, nos auditeurs, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de retarder le maximum possible une pathologie comme la cataracte? Tu as parlé du diabète, tu as parlé du tabac, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, par exemple la protection utilisant des lunettes de soleil? Qu'est-ce qu'on peut faire effectivement pour essayer de la repousser le plus loin possible?
Ah, alors, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Donc déjà, il existe des collyres, donc ça ne sert strictement à rien. Les patients vont dépenser des sous pour rien. Les collyres ne servent à rien. Non, effectivement, tu l'as dit, c'est une protection solaire. Quand on s'expose à la mer ou à la montagne, se protéger les yeux des UV et ça protégera aussi la rétine. Donc c'est double emploi. Et ensuite, oui, équilibrer des diabètes et éviter le tabac. Mais après, malheureusement. Il n'y a pas de solution.
C'est vrai que le temps passe très rapidement et on arrive proche de la fin de l'émission. Est-ce que tu as un mot pour la fin, un sujet important qu'on n'a pas évoqué, que tu penses que c'est important à dire à nos auditrices ou nos auditeurs avant de finaliser notre intéressante émission d'aujourd'hui?
Ben oui, qu'il faut la vision et la vue, c'est important. L'œil est un organe fragile. Voilà, il faut pas hésiter à consulter. Je sais que parfois les délais peuvent être un petit peu longs, donc il faut parfois ne pas hésiter à anticiper, prendre des rendez-vous 4-6 mois à l'avance. Mais il faut effectivement être examiné par un ophtalmologiste. Renouveler des lunettes, on le sait maintenant, ça peut se faire un peu partout. Mais l'examen ophtalmologique pour bien observer et examiner toutes les structures de l'œil, c'est fondamental. C'est un organe petit qui est malheureusement truffé de pathologies et que l'examen ophtalmologique qui pourra les dépister. La cataracte, bien sûr, en fait partie, mais voilà, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc très souvent, ne pas hésiter à faire un examen régulier avec son ophtalmologiste, même si ce n'est pas forcément que pour remplacer des lunettes.
Parfait. Un grand merci, Paul, pour toutes ces explications très importantes. J'espère que nos auditrices, nos auditeurs, aujourd'hui, pas simplement les oreilles, mais ils ont gardé aussi la vision bien ouverte pour nous. Et tu sais que les portes de Phare FM sont toujours ouvertes. Tu reviens quand tu veux pour parler d'un autre sujet, des sujets que tu penses que c'est intéressant. Merci beaucoup de ton temps et de toute l'explication.
Merci beaucoup.
Je te passe l'antenne, Laurent.
Merci beaucoup, Edmundo. Merci, docteur. Alors, cette émission vous a plu. Vous pouvez la réécouter ou la partager puisqu'elle est disponible en podcast sur notre site www.farfm.com. Rubrique La Santé, c'est l'affaire de tous.